question donc, du changement, de l'irréversibilité, de l'imprévisibilité dans nos analyses, des situations auxquelles nous sommes tout le temps confrontés et pourtant assez peu, très mal utilisés. Donc merci beaucoup. Merci aussi de nous offrir ce moment précieux de réflexivité sur notre discipline. Donc ce sont des moments rares et pourtant précieux. Alors on a eu l'occasion il n'y a pas si longtemps d'accueillir un cahier. Donc c'était aussi un moment très stimulant de discussion et d'échange sur une discipline qui est dans le contexte qu'on connaît et que tu rappelles dans tes écrits, hein, contexte de crise quand même, en tout cas de grande diversité de courants, d'approches, on ne sait plus trop une forme d'éclatement de la discipline et en même temps une forme, on le voit, d'affaiblissement. Je voudrais aussi saluer, profiter de la présence et de le faire en sa présence, vraiment la posture de Michel Brossetti. On le voit vraiment à travers tous ses écrits, sa tentative de construire des outils analytiques qui ne divisent pas, hein, qui relient au contraire différentes conceptions sociologiques. Michel Brossetti est un grand défenseur d'un pluralisme explicatif, on pourrait dire, hein, ce qu'il appelle une sociologie métisse. Qui ne défend pas une école ou une chapelle, mais qui trouve plus fécond, disons, de prendre acte de la variation, hein, des effets de connaissance selon les contextes étudiés. Et voilà, et puis ça nous, c'est quelque chose que, au sein du LAMES, c'est une ligne de conduite que nous essayons de tenir aussi, hein, que nous défendons. Depuis longtemps, depuis toujours, le directeur passe et cette intention, je crois, au LAMES reste et je pense que c'est une bonne chose. Alors, on le voit donc à travers aussi cette communication, Michel Brossetti nous invite à examiner des éléments vus séparément, hein, et qui sont très souvent intriqués dans l'analyse des processus, qui sont très souvent devenus des prêt-à-penser, on les questionne plus, l'opposition micro-macro, ça va de soi. Eh bien là, non, l'approche de Michel Brossetti permet de revenir sur cette distinction micro-macro, en tout cas de sortir de cette opposition, en introduisant, je vais y arriver, une dimension, celle de la durée. Et donc on a aussi des propositions que je trouve tout à fait stimulantes. Tu en as parlé, les opérations de sédimentation, hein, de typification, qui permet donc d'accumuler des séquences micro qui peuvent produire, comme dans certains cas, des phénomènes, des changements macro. Je souligne aussi des opérations de contamination d'un contexte sur les autres contextes, jusqu'à produire parfois un effacement du contexte. Et tous j'en souligne deux, d'autres ont été soulignés dans le cadre de la communication, et ça nous permet de comprendre finalement comment les séquences micro peuvent avoir des effets macro, et finalement traiter la question très très cruciale dans notre discipline, la montée en généralité. Alors, j'en viens à mes questions, j'en aurai deux principalement. Alors, une qui traite finalement de l'articulation entre deux sociologies que Michel Brossetti connaît très très bien, la sociologie relationnelle, la sociologie du réseau et celle qu'on nomme maintenant la sociologie de l'imprévisible. J'aimerais en savoir un peu plus sur, tu l'as évoqué finalement, comme quelque chose finalement qui serait un chantier à venir, mais peut-être ça serait l'occasion de revenir un petit peu sur que peut-on dire du poids des relations, du poids du rôle, du rôle de ces relations, de la dynamique des réseaux dans des situations d'imprévisibilité. Ça serait la première question. Et puis la deuxième question porte davantage, enfin, sur finalement la place, le positionnement du chercheur dans une sociologie de l'imprévisible. Alors ça me vient après donc la lecture de tes travaux et dans lesquels tu précises à la fois les points qui rassemblent et les points qui distinguent les sciences de la nature des sciences sociales. Alors, quand même, un point qui les rassemble, c'est quand même, en tant que science, le souci de monter en généralité, de trouver des régularités, voire des lois, ça c'est un point commun. Et puis un point divergent, grandement divergent, c'est que dans le cas des sciences de la nature, eh bien, elles font partie, elles ne font pas partie, pardon, du monde qu'elles étudient, alors que dans notre cas, en sciences sociales, eh bien, les sciences sociales font bel et bien partie du monde qu'elles étudient. Donc la question, c'est en quoi le fait que le chercheur fasse partie du monde qu'il étudie participe-t-il de l'imprévisibilité des faits sociaux. Et là, pour le dire autrement, je partais d'un exemple, celui qu'on connaît bien ici, enfin en tout cas qu'on discute et qu'on tente d'appréhender, ce qu'on a appelé les révolutions arabes, le contexte du printemps arabe. Et on était tous d'accord pour dire, analystes, on n'a rien vu venir. On n'a pas pu anticiper, on n'a rien vu venir. Bon, ben, et alors, comment expliquer ce « on n'a rien vu venir » ? Est-ce que ce « on n'a rien vu venir » vient du fait que les faits sociaux sont en soi d'une grande complexité et qu'ils échappent à l'entendement ? Certains faits sociaux échappent à l'entendement, on n'arrive pas. Et puis d'autres... est-ce que ça peut s'expliquer parce que finalement les sociologues ne sont pas encore bien outillés pour analyser ce type de phénomènes sociaux? Est-ce qu'on peut encore expliquer ça par le fait que finalement, par l'effet de sédimentation, de cumulativité, ce sont les analystes qui ont finalement fourni des analystes sur le régime autoritaire de ces pays depuis des années et des années, sur le clientélisme et autres, qui auraient fourni finalement des arguments de contre-pouvoir aux populations qui les ont lus, qui les ont entendus, etc. Ou au contraire, des populations qui finalement ne veulent pas se plier à un régime qui a été analysé comme durable, comme irréversible finalement. Voilà, c'est un certain nombre de questions que je pose là, et finalement, je terminais sous la forme d'un questionnement d'une manière un peu humoristique. Est-ce que les faits seraient toujours imprévisibles s'il n'y avait pas de chercheurs? Voilà, donc c'est un questionnement. Deux questions.
Non, mais merci beaucoup. Merci. De ces commentaires. Moi, je crois que les chercheurs arrivent toujours à prévoir les faits sociaux après coup. Il suffit d'interroger un sociologue sur un événement, il va toujours commencer par dire que c'était prévisible. Mais évidemment, on a beaucoup moins de cas où il l'aurait prévu réellement avant que ça se produise. Donc ça, c'est un des points dont j'étais parti d'ailleurs. Pour Alors, oui, quatre petites réponses à deux questions. Peut-être d'abord sur la crise de la sociologie, je suis d'accord, on est tous d'accord pour dire qu'il y a un moment, d'incertitude sur cette discipline, mais comme sur l'ensemble des sciences sociales d'ailleurs. Je pense que la sociologie est beaucoup plus solide que ce que croient les sociologues, et beaucoup plus cumulative que ce qu'ils croient, et moins contradictoire aussi que ce qu'ils ont longtemps cru. Je crois qu'ils commencent à s'en rendre compte quand même maintenant, que les conflits de paradigmes sont moins radicaux que ce qu'on met en scène dans les cours. Cela dit, je pense que l'avenir de la sociologie passe par une ouverture aux autres sciences sociales, à l'histoire, à l'anthropologie. Je ne pense pas que l'avenir de la discipline soit dans un repli sur sa propre histoire, et son propre cadre, son propre arsenal théorique, disons. Voilà. Mais je pense que les sciences sociales sont potentiellement très fortes. Voilà, dans un monde où elles sont souvent menacées par des formes de réductionnisme, mais je vais y revenir un petit peu après. Sur le pluralisme, bon, j'ai au fond, j'ai été formé par Jean-Michel Berthelot, comme Michel, et on a appris auprès de lui ce pluralisme. Mais Jean-Michel essayait de cartographier les approches en sciences sociales en essayant de rendre à chacune sa noblesse et ses apports. Moi, j'essaye quand même d'aller vers une synthèse en faisant des choix, c'est-à-dire qu'il y a des choses que je ne fais pas, il y a des positions que j'ai. Enfin, c'est quand même. Je suis moins pluraliste que lui, quoi. Voilà. Et alors, tout en essayant de faire quelque chose qui soit modulable, modifiable, pas trop fermé. Enfin, voilà. Si c'était un logiciel de un système d'exploitation d'ordinateur, ça serait plus Linux que Microsoft, enfin que Windows, quoi. Voilà, pour répondre à tes questions, l'articulation des réseaux et au fond des approches dynamiques, puisque c'est bon, je l'évoque dans l'ouvrage, et puis depuis, je me suis beaucoup intéressé à la genèse des relations sociales, à comment les relations se construisent, comment des collectifs émergent des réseaux, comment les réseaux évoluent. Bon. Cela dit, c'est vrai que c'est un problème très, très contemporain, puisque les analystes de réseaux ont très bien compris que l'analyse de réseaux est fondamentalement tiré vers des analyses statiques, parce qu'on cherche à cartographier des choses, donc on fait des photos, quoi, finalement. Et donc c'est plus compliqué d'introduire de la dynamique là-dedans. Il y a beaucoup de travaux actuels là-dessus. Bon, pour ma part, je me suis intéressé à une approche particulière qui est celle des chaînes relationnelles qui, au lieu de cartographier un réseau à un moment donné, c'est de comprendre comment les relations sont mobilisées dans des situations, dans des processus, quoi. Comment, par exemple, pour trouver du travail, pour gérer une mobilité géographique, etc. etc. Donc, c'est une bonne question, mais on travaille dessus, quoi. Voilà. Ensuite, sur le positionnement du chercheur entre les sciences de la nature et les sciences sociales, je crois que c'est un point sur lequel il faut absolument réfléchir collectivement. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites. Hein. Je pense à l'ouvrage Faire des sciences sociales, là, qui est en trois volumes des collègues de l'école des études en sciences sociales, qui décrit assez bien des bases possibles pour les sciences sociales. Je crois qu'il faut affirmer que la spécificité des sciences sociales, c'est-à-dire ce que tu as dit, le fait que les analystes et leurs objets sont les mêmes, et donc, du coup, ça introduit par exemple une différence radicale avec les sciences de la nature, c'est que les objets qu'étudient les sociologues peuvent lire les travaux des sociologues et modifier leur comportement en fonction de ceci, et ce que ne font pas les atomes ou les bosons ou même les espèces animales. Ça induit des choses, c'est-à-dire que la spécificité des humains, des collectifs d'humains en interaction, c'est que ça, justement, une des caractéristiques, c'est la prévisibilité de leur comportement. Du coup, il ne peut pas y avoir, je prends dans une position un peu, mais qui n'est, je ne suis pas le seul à la prendre, il n'y a pas de loi dans le monde social. Il n'y a pas de loi équivalent aux lois de la physique qui permettrait une prédiction quantifiée, précise et relativement certaine. Et c'est en ça que, à mon avis, l'économie standard, par exemple, est sortie des sciences sociales en croyant qu'il y a des lois et qu'il n'y a qu'à mettre en équation ces lois et les faire fonctionner pour prédire des choses. Ils n'arrivent jamais à rien prédire, d'ailleurs. Mais ils considèrent que si leurs prédictions ne marchent pas, c'est parce que le monde social est mal organisé, qu'il faudrait donc changer les choses. Alors, par contre, il y a des lois dans le monde social qui sont des lois faites par les hommes pour les hommes, et donc qui sont évidemment contournées, réinterprétées et travaillées sans cesse par les rapports sociaux. Donc l'imprévisibilité est un élément de la spécificité du monde social. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'imprévisibilité dans la nature, hein. Il y en a beaucoup. Il y a des situations de désordre, de chaos, etc., etc. Il y a l'imprévisibilité du monde quantique, mais ce ne sont pas des imprévisibilités de la même nature. Par exemple, dans les théories des systèmes dynamiques, j'ai beaucoup regardé, L'imprévisibilité naît de modèles déterministes. Or, en sciences sociales, on ne peut pas utiliser des modèles déterministes, ça ne marche pas, parce que l'action sociale n'est pas déterminée. Elle est influencée par des facteurs, elle est limitée, elle est cadrée, mais elle est jamais déterminée. Ben, c'est mon point de vue, en tout cas. Donc, du coup, il y a bien des régularités dans le monde social, c'est ça que nous étudions, mais il faut les documenter sans cesse. C'est aussi, bon, c'est peut-être trivial de le dire, de le rappeler, mais le monde social est historique, donc ces régularités évoluent dans le temps, ce qui implique qu'il faut sans cesse redocumenter les choses. Et ces régularités, bon, il y a une chose qui marche, c'est les statistiques. Donc, la loi des grands nombres fonctionne dans le monde social sous certaines conditions. Pas toujours, mais sous certaines conditions, on peut faire des statistiques. Mais sinon, tout le reste des modèles issus des sciences de la nature ne fonctionne pas, ou en tout cas ne peut pas fonctionner sans des adaptations considérables. Alors, du coup, l'exemple des révolutions arabes, je crois que les trois explications que tu as données peuvent être... je ne saurais pas trancher entre... Je crois effectivement à une imprévisibilité qui est intrinsèque au monde social. Maintenant, les outils des sciences sociales peuvent évoluer pour, dans certains cas, être un peu moins... être un peu plus capable d'anticiper certaines choses. Il y aura toujours des tas de situations qui échapperont totalement à toute prévision, et c'est normal. Et au fond, moi je suis content qu'on ne puisse pas prévoir ce que je vais faire, sinon ça serait ennuyeux là, la vie sociale. Donc et après, que les sciences sociales aient des effets performatifs, ah ben ça on le sait bien, et ça fait partie de notre métier d'en être conscient. Nous sommes dans la politique quand on fait des sciences sociales, même quand on fait des sciences sociales très académiques. C'est plutôt moi ma position. Je ne suis pas un sociologue critique très impliqué dans les débats politiques, mais je me suis retrouvé à plusieurs reprises, à partir de résultats empiriques tout à fait académiques, dans des débats politiques, parce que j'étais en contradiction avec des gens qui défendaient d'autres points de vue, qui permettait de justifier certaines politiques. Et donc, on ne le fait pas exprès parfois, mais du coup, on se retrouve quand même. Donc, on fait toujours de la politique quand on fait des sciences sociales. Et ça, effectivement, on ne peut pas faire autrement que... Voilà. Et donc, du coup, ça explique pourquoi on prédit très bien les choses après coup, mais assez mal avant que ça se produise.
Bon. Merci. Prise de parole, peut-être on va...
J'ai une petite question sur votre modèle en contexte de routine, avec une imprévisibilité faible et tout est faible. Je pensais justement au contexte de l'accidentologie. On montre qu'en contexte de routine, finalement, où l'imprévisibilité est la plus faible et la civile aussi, finalement c'est là où elle est aussi la plus forte, parce que c'est là où on a les plus gros accidents, et éventuellement du coup là aussi c'est le plus irréversible.
Oui, oui.
Ça c'est juste sur la validité de ce type de modèle qui finalement est peut-être très facilement, je pense, invalidé à bien des égards. Mais ma question elle est sur pourquoi vous en tenir à l'échelle micro et macro, alors quid de l'échelon intermédiaire, le méso. Ou peut-être c'est là où on peut se saisir à la fois des interdépendances entre systèmes, des interactions entre les faits. Donc là, il me semble qu'il y a peut-être un chaînon manquant, et peut-être que l'analyse, du coup, elle est statique, du fait que ça ne soit pas relié. Et surtout pour une... D'après ce que je comprends aussi par rapport à votre parcours, vous avez aussi une connaissance des réseaux. Or, vous savez bien que les réseaux aussi sont précisément au point d'articulation et de la confluence du local et du global. Donc là, j'ai cette question-là. Et puis juste, est-ce que sur les questions de l'imprévisibilité et d'irréversibilité, est-ce que ce sont des catégories qui sont elles aussi fixistes? Et est-ce qu'il ne faut pas non plus les penser en contre-champ avec tout ce qui relève de la stratégie adaptative, où là, on est sur du va-et-vient permanent, et donc en fait, qui sont des catégories prévisibles et imprévisibles qui deviennent très floues. Si on pense justement qu'on a un mécanisme d'ajustement permanent au niveau des adaptations. Après, je vais en parler.
Oui, mais bonne question. Mais non, sur le mot, enfin, la question de la routine, c'est un problème de vocabulaire, c'est-à-dire que ce que vous entendez par routine, je l'utilise également pour parler de situations cognitives où on fait toujours la même chose sans trop se préoccuper de ce qui se passe, alors que là, j'aurais peut-être dû utiliser un autre terme, mais je l'utilise au contraire pour précisément caractériser des situations où il n'y a pas d'irréversibilité, mais c'est deux choses différentes pour moi. Donc si vous voulez, c'est un problème plus de vocabulaire qu'autre chose. La situation où un manque de vigilance produit une irréversibilité, c'est plutôt une bifurcation, pour le coup, dans ce tableau-là, quoi. Mais elle est issue, au fond, d'une situation cognitive routinière qui induit un manque de vigilance. C'est ça que vous pointez, quoi. Donc ça, c'est simplement un problème, à mon sens, vocabulaire. Alors après, effectivement, on peut introduire du méso, et je le fais volontiers, puisque effectivement, il m'intéresse beaucoup au réseau. Mais dans les petits raisonnements que j'ai introduits, ça ne changerait pas fondamentalement le raisonnement d'introduire un niveau intermédiaire. En fait. Et, si vous voulez, on a une sorte de gradient entre on pourrait introduire 4, 5, 10 niveaux sur une dimension de masse ou de durée. Ça ne changerait pas fondamentalement le raisonnement. Donc du coup, avec les deux catégories extrêmes, on comprend les choses on pourrait s'amuser, hein, si vous voulez, on peut le faire ensemble, de faire un tableau non plus à 4 cases, mais pour le coup à 9 cases, et on verra qu'on introduit des nuances, et on peut en introduire à l'infini, mais c'était pas ma préoccupation principale. Alors en effet, les réseaux, c'est une des formes sociales intermédiaires. Il y en a d'autres, je pense ils sont intéressants parce qu'ils sont à la fois ancrés dans du micro qui est l'interaction et la relation dyadique. Ils peuvent aller jusqu'à des masses très importantes. Donc effectivement, les collectifs sont aussi sont une autre forme sociale, à mon sens, qui peut. C'est au fond les cercles de Zimmel, quoi. Peuvent aussi balayer tout l'espace entre le micro et le macro en termes de masse. Bon, voilà. Moi, honnêtement, je veux bien faire l'exercice, je l'ai déjà fait, je ne pense pas que ça changerait le raisonnement, là, d'introduire un niveau intermédiaire, plusieurs niveaux intermédiaires. Alors après, je ne sais pas ce que vous appelez la stratégie adaptative, exactement, mais je peux peut-être m'éclairer sur ce point.
Ce qui relève de l'adaptation, justement. Oui. Parce que je trouve que d'introduire simplement ces deux dimensions d'intrigue, avec peu de cas, la capacité d'action, réaction, vous n'avez pas la moment de rétroaction. Justement, ça ferme, je trouve, un petit peu. Il y a un peu de surdétermination, quand même, il me semble. Mais bon, je ne sais pas si c'est des catégories en soi qui servent à balayer l'ensemble de l'observation. Bon, je sais, c'est quelque chose.
Peut-être dissocier la question de la stratégie qui est. Au fond, qui relève de la logique d'action des personnes, des collectifs. Et puis l'adaptation, qui est plutôt un processus qui peut ne pas impliquer de stratégie d'ailleurs. Enfin, moi j'aurais tendance à découpler les deux aspects de l'expression et à les traiter séparément. Il y a souvent le processus d'adaptation, il peut être une série de séquences comportant plus ou moins d'imprévisibilité. La stratégie, c'est une logique d'action parmi d'autres qui est orientée vers des finalités, mais qui. Existe avec d'autres fonctionnements, quoi, enfin, d'autres comportements sociaux. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je commencerai par les regarder séparément avant de les remettre ensemble, si je devais explorer ce problème.
Et d'abord Vincent, puis Samuel, puis Pierre Fournier.
Une question un petit peu sur la question précédente, notamment sur la question de l'attention. Qui correspond un peu au soutien à la routine et à l'action changement, où, enfin, comme là sur le terrain, je remarque que quand on mène une action, un changement sur un espace, le fait d'avoir une attention, de porter son action au travers d'un dispositif qui va essayer d'une certaine manière. Prévisibiliser les choses, en tout cas essayer de poser des questions.
Oui.
Alors, est-ce que c'est une thématique de l'action, je ne sais pas, en tout cas, cette question-là de dire, il y a une attention à porter, donc il y a peut-être une posture à avoir, que ça est posture routinisée, je mène une action d'aménagement, comme j'en ai mené d'autres, sans vraiment porter l'attention, on voit bien que le risque en termes d'imprévisibilité, notamment en termes de résultat, il est assez fort entre les acteurs qui portent une attention et non. Donc finalement, ça rejoint un peu la question de réforme pour régulation et crise, c'est-à-dire à un moment donné, des structures ou des acteurs qui à un moment donné portent la réforme, portent la régulation et à un moment donné se posent des questions sur le changement et d'autres continuum qui sont plus routinisés qui amènent à une situation de crise parce qu'il n'y a pas eu d'attention. Enfin, voilà, c'est un peu pour
dire. Non, non, mais je suis tout à fait d'accord. Moi, en fait, c'est le terme routine, je pense, qui pose, peut-être en prendre un autre. Dans cette présentation, j'ai laissé de côté deux choses qui sont dans le bouquin sur l'imprévisible. C'est, qui sont esquissées au moins. C'est une théorie de l'action. Il n'y a pas de théorie de l'action dans ce que je viens explicite dans ce que je viens de présenter. Il n'y a pas non plus une théorie de la dimension cognitive de l'action. Il y en a dans d'autres aspects du bouquin sur les théories de l'action. J'ai laissé un peu cette chose ouverte tout en introduisant quelques éléments, et sur la dimension cognitive par contre j'ai fait un effort pour essayer de trouver une solution au problème en m'appuyant sur Weber, sur d'autres auteurs. Il me semble, pour répondre synthétiquement à votre question, que il y a un certain nombre de ressources cognitives que les gens, que les personnes ou les collectifs mettent en œuvre dans leur activité. Ça peut être des routines, c'est-à-dire des choses de l'allant de soi, du déjà là qu'on reproduit. Ça peut être des projets, des finalités. Ça peut être des valeurs. Ça peut être des histoires, c'est-à-dire des façons d'inscrire l'action dans un continuum entre un passé et un futur. Ça peut être des théories, des façons d'analyser le monde. Et je crois, bon, il y a toujours un peu tout ça dans l'action, mais il y a des situations dans lesquelles domine plutôt la routine ou plutôt l'intention de modifier un état de choses. Donc j'ai beaucoup, récemment avec des collègues, on a travaillé sur l'entrepreneuriat. Donc ça nous a amené à définir une sorte de logique d'action entrepreneuriale dans laquelle il y a une volonté de modifier l'état du monde, au moins autour de moi, autour de chaque acteur, à un horizon donné. Évidemment, on ne peut pas être une situation de pure routine. Si on est dans une situation d'entrepreneuriat, on est, enfin de création d'entreprise, par exemple, on est forcément dans une logique où prévaut une sorte d'intention de modifier l'état du monde. Donc une dimension téléologique, c'est-à-dire qu'on a un horizon qui dépasse l'action en cours. Donc ça, au fond, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais c'est des aspects que soit j'ai développé mais pas présenté ici, soit je suis en train de travailler. Quoi. Mais voilà, il ne faut pas se laisser le mot routine là, je pense qu'il faut que je le change parce que ça introduit trop de confusion.
Merci Miguel.
Moi, c'est des questions, des choses qui sont plutôt des remarques. Sylvie, tu as raison, ça fait deux séminaires, on peut vraiment faire de la sociologie gênée et générale, et ça fait du bien. Et en plus, alors sur un thème, par exemple, comme celui du micro-macro, bon, j'ai parti à la génération de Michel Grossetti, c'est que ça, c'était sportif à l'époque, tous ces débats-là, qui faisaient qu'il y avait de l'invective, de blasphème, ou en tout cas de l'invective, et que du coup on sortait couvert un petit peu. Et quand on risquait quelque chose, quand on risquait une parole, tout de suite les inférences étaient tracées en disant non mais attends, tu parles de ce camp, etc. Donc Je trouve ça très bien de reprendre la question et tu l'as fait, en fait, là, moi je découvre un peu ça aujourd'hui, mais c'est un travail que tu as, qui est déjà, qui est déjà 10 ans.
Hein. Oui, oui, voilà. Je n'y peux.
Et donc, c'est, je suis très content qu'on puisse raisonner ensemble sur ces questions-là. Moi, ma voix de sortie sur cette question-là, et je te la soumets, Michel, parce que j'ai écrit parce que dans mon rapport que j'avais de carrière que j'avais à faire pour l'Emerita,
j'ai toujours des rapports
fini là-dessus en disant, mais dans le fond, est-ce que ces polémiques sur le micro et le macro, elles ne partagent pas une chose, c'est qu'on doit avoir une théorie qui rende raison de l'ordre social et de ses principes de construction. Est-ce que c'est pas trop? Est-ce que dans le fond, cette controverse a été d'autant plus violente qu'elle mettait aux prises des gens qui avaient encore un imaginaire sociologique qui était celui de la dernière instance?
Oui, c'est
on
ça.
Disait pour
oui.
Le marxisme, pour l'économie. Alors les individualistes méthodologiques ont traqué ce qui est au fond du barbie des individus par l'agation, l'internationalisme, tout ça. Et puis d'un autre côté, il y avait le social en dernière instance, le social, c'est Durkheim, et c'est, du coup ça allait très bien avec le marxisme et le post-marxisme. Et comment échapper à ça? D'une certaine manière, c'est pas possible. Alors là, l'interactionnisme, pour moi, bon, je pense que tu serais d'accord, Michel, à la fois il est très fort, à la fois il est très faible. C'est-à-dire qu'il déserte un peu cette question-là, de la dernière instance, il est plus modeste, il décrit. Mais il décrit pas simplement pour décrire, il est décrit pour qu'on le lise mieux, pour qu'on comprenne mieux, etc., etc. Mais il n'a pas de prétention théorique, en tout cas il ne les fait pas valoir. Or, il a un corpus théorique derrière, qui est celui du pragmatisme américain. Et il ne le met jamais en avant. J'ai dû une discussion avec Howard Baker, ça. Quand je lui ai dit, mais tu sais qu'en France, le pragmatisme revient à la mode, il m'a dit, c'est incroyable parce que tu sais pas, c'est ma philosophie. Vous ne le verrez pas dans Baker, ça. Il le tient en réserve et il ne veut pas faire le point, faire servir la sociologie à faire du théorique en général. Alors que la position française, elle est évidemment complètement différente. Et un des tenets, comme on dit en anglais, du pragmatisme, qui est quand même assez beau, et j'ai lu un texte de Latour qui vient de sortir, et qui dit, dans l'imaginaire des sciences sociales, on est mangé par l'imaginaire des lois, ce que tu dis, et c'est pas une loi, c'est que l'important c'est la cause. Et toutes les conséquences sont complètement aplanies par la cause et on s'y intéresse plus. Or, dans l'imaginaire pragmatiste, les conséquences peuvent être cause d'autres conséquences, et donc il faut suivre des processus. Et là-dessus, je me retrouve bien avec toi quand tu dis, mais dans le fond, là où ça tremble un peu sur micro-macro, c'est que quand on prend au sérieux les processus, les deux oppositions perdent leur tranchant. Alors, bon, je veux juste revenir sur un des aspects de la question de Sylvie et puis t'interroger un peu là-dessus, Michel. La question, moi j'aime beaucoup comment, non pas, c'est pas un modèle, c'est des typologies, comment elle distingue, elle catégorise plusieurs types de phénomènes sociaux qui sont différenciables selon tes trois critères qui sont très très bien. Et je trouve que c'est très éclairant, par exemple, pour etc. Mais en même temps, il y a des phénomènes, peut-être tu l'as anticipé ça, comme le développement de la presse nationale au 19e siècle. Parce que c'est tout le bouquin de Benedict Anderson, comment ça s'appelle, l'imaginary, c'est sur l'origine imaginaire des nations. Comment ? Les communautés imaginées, Imagine Communities. Cette analyse est remarquable. Le bouquin fait 120 pages, je recommande à tout le monde de le lire, de traduire en français maintenant. L'objet est lourd. La genèse du nationalisme. Si c'est pas du macro, ça c'est. Et des nations, pas du nationalisme. Alors, il y a deux modèles, il y en a un pour l'Europe. Et puis il y en a un pour l'Amérique latine, qui en prend tous les deux à des masterminds, à des gens qui ont des modèles à travailler, qui sont des modèles de sciences sociales, pas de sociologie. sociologie, mais de sciences sociales, et on va revenir à cette question. Et il y a un modèle qui vaut pour l'Europe, c'est la propagation simultanée du chemin de fer et des journaux, et du roman national et de la redécouverte des langues. C'est un phénomène macro, complètement macro. Mais c'est un phénomène complètement micro, parce que l'importance de ce phénomène, c'est qu'est-ce qui se passe entre quelqu'un qui lit et son journal. Et c'est les deux en même temps. Et c'est pas une maison, c'est les deux en même temps. Et moi, c'est un exemple qui me fait réfléchir, j'ai pas la solution, mais qui met en trouble ces catégories. Et si on revient à la révolution arabe, le printemps arabe, il y a tout ce truc au milieu qui est l'Internet. Est-ce que c'est à cause de l'Internet ou pas? Est-ce que l'Internet actualise quelque chose qui était déjà là ou pas? Moi, je n'ai pas la réponse, mais si on est alerté, si dans le paradigme sociologique, on avait un accent mis sur l'importance de la création imaginaire des communautés autour de moyens de communication, à ce moment-là, l'Internet, on aurait peut-être fait plus attention. Donc la sociologie, elle voit rien venir. À la fois, moi, ça ne me gêne pas parce que c'est pas son job de forcément de prévoir. Heureusement, si on était capable de prévoir, on serait soumis à des pressions terribles. Mais en même temps, elle est toujours à temps de se rectifier et d'essayer de travailler rétroactivement ses modèles par rapport à des bugs sur lesquels elle est tombée. Quoi. Voilà. Et c'est plus mais sur Michel, sur le coup du fait de passer le couteau du micro et du macro sur le phénomène que je viens d'écrire, c'est redoutable,
non? Non, moi ça me... c'est pas le plus gênant, quoi. C'est... Ouais. Pour commencer par ça, c'est facile à dire que peuvent se construire des éléments, des ressources, des références macro, c'est-à-dire partagées par beaucoup de monde, mais qui se perçoivent dans l'interaction quotidienne.
Ouais.
Un mot, un élément de langage, un objet commun, ça c'est un stylo, mais... Il y en a plein des stylos, on sait ce que c'est qu'un stylo, c'est une construction historique, le stylo, dont on peut refaire l'histoire industrielle, tu vois, la bille et tout. C'est pas tellement. C'est une ressource partagée, finalement. Donc elle est micro parce qu'au moment où on l'utilise, on est dans une situation micro, et elle est macro par le fait qu'elle est un élément d'une série d'objets identiques ou de références. Similaires qui sont utilisés dans plein d'autres situations. Et donc, du coup, le lien se fait à travers les ressources, au fond. Enfin, moi, j'appelle ça des ressources. Je ne suis pas très content du mot ressources parce qu'il tire vers une forme d'utilitarisme. Enfin, j'en ai pas trouvé d'autres. Donc, je cherche un peu si tu as des idées. Parce que les actants à la tour, ça enferme dans une théorie un peu. Donc, je cherche un peu autre chose. Mais, des objets, par exemple, pour prendre. Chose de simple, ils font le lien entre ce qui se passe dans l'interaction et des éléments macro, parce que ce stylo, il a été fabriqué dans une usine. Si on tire les fils à partir d'un objet, comme ça, on va trouver du macro, à la fois historique dans la mise au point de l'objet, macro synchronique dans le nombre d'exemplaires qui en a été produit, etc. Donc ça me pose pas forcément de gros problèmes. Par contre, pour revenir sur d'autres aspects, c'est plus compliqué. Je suis complètement d'accord avec toi sur la dernière instance. Je pense qu'il n'y en a pas. Et donc, du coup, tout mon bouquin est construit sur l'idée qu'il n'y a pas de dernière instance. Et que du coup, d'ailleurs, c'est ce qui justifie de s'intéresser à des processus, c'est de changer la focale, d'être parfois vraiment micro, puis d'élargir. Enfin, je pense qu'il faut... Il ne faut pas faire que des plans larges ou des plans, des gros plans, il faut sans arrêt faut faire du cinéma, quoi. Mais alors ça pose d'autres problèmes. On résout les vieilles contradictions de la sociologie, l'acteur et le système, micro-macro, on les résout sans problème quand on prend des processus, mais on tombe sur les problèmes des historiens, c'est-à-dire comment on découpe le début et la fin d'un processus, comment on évalue la continuité et l'unité d'une même histoire, dans quelle mesure, quand on introduit une narration, parce qu'on est obligé de le faire, on ne tord pas le monde pour le faire rentrer dans une cohérence narrative, une mise en intrigue. Enfin, on tombe sur tous ces problèmes-là qui sont communs à l'histoire, qui n'ont pas forcément beaucoup de solutions évidentes, mais qui du coup, on résout bien les problèmes classiques de la sociologie, mais on tombe sur d'autres problèmes. Alors effectivement, moi le problème du pragmatisme, c'est que je dois avouer que Dewey m'ennuie, donc il faut que je le lise mieux, mais que Peirce, etc., etc. Bon, enfin, bon, bref. Alors c'est clair que l'interactionnisme est né du pragmatisme, que Mead est un pragmatiste en fait. Oui. Donc du coup le courant interactionniste, c'est pour ça que c'est très drôle de voir des chercheurs, des sociologues français réinventer le pragmatisme dans les 20 dernières années, puis découvrir après coup que finalement il y a un philosophe américain qui avait déjà creusé la question. Mais avec beaucoup d'ambiguïté et de confusion, je crois, parce qu'évidemment, y compris sur la compréhension qu'on a en France de l'interactionnisme, parce que je suis comme toi, moi, l'interactionnisme qui m'intéresse le plus, c'est Baker, c'est Hughes, c'est un interactionnisme qui est un peu macro, capable de jouer sur le micro et le macro. Et j'aime beaucoup Goffman, par exemple. Et Goffman est parfaitement conscient qu'il ne traite qu'un aspect du monde social, un niveau d'action. Par contre, ceux qui l'ont réinterprété après ont tendance à en faire une théorie totalisante, ce qui est un contresens partiel, en tout cas. Et c'est un peu le même problème. Alors, c'est un problème encore plus compliqué avec l'ethnométhodologie qui radicalise l'aspect contextualisant, ce qui fait qu'on peut mettre dans le pragmatisme des approches, finalement, on pourrait dire, d'analyse de processus, d'interaction, etc., à la Baker, et qui s'ancrent chez Simmel, etc., et puis dans le pragmatisme de Mead et d'autres. Et on peut y mettre aussi des choses très centrées sur l'action elle-même, très ultra-contextuelles, qui sont assez différentes, en fait, derrière le même drapeau. On peut mettre des choses, et du coup, ça introduit, je pense, beaucoup de confusion. Alors, moi, je pense qu'il faut mettre de la profondeur historique aux choses, je pense qu'il faut s'intéresser à des processus, je pense qu'on ne peut pas être purement dans le contexte. Bon, je pense que beaucoup de sociologues, maintenant, partagent ce point de vue, mais enfin, il peut y avoir des... Alors, évidemment, le contextualisme a l'intérêt de défaire les allants de soi, de les mettre en question. Mais on peut le faire tout en comprenant quand même comment ça se sédimente dans le temps et comment ça. Voilà. Après, c'est vrai que il y a toujours le problème de est-ce qu'on on adopte une posture plus objectivante ou une posture plus compréhensive. Dans quelle mesure on s'autorise à interpréter les processus sociaux, ou est-ce que dans quelle mesure on laisse la parole aux acteurs eux-mêmes. Enfin, il y a toute une graduation de postures. Et c'est vrai que la mienne est plutôt du côté objectivant avec prudence, disons. Mais ça, j'assume ça. Voilà. Et l'histoire de la presse au 19e siècle, enfin. Je ne sais pas si c'est ça. Oui, toi, tu avais en tête le fait qu'après, ça devient un truc micro, etc. Donc ça, c'est ce que j'ai abordé au début. Mais il y a quand même un autre aspect. Je pense que dans cette... Je ne connais pas ce travail sur la... Mais il y a une construction macro qui part aussi d'acteurs micro, puis de collectifs de petite taille. Et je pensais... Moi, un exemple que j'ai beaucoup utilisé, c'est l'industrie électrique aux États-Unis, la mise en place... du système de distribution d'électricité aux États-Unis à la fin du 19e siècle. Il y a des études qui montrent qu'il y avait trois solutions qui ont été débattues à l'époque, entre un système unique public, EDF, quoi, un système de petits producteurs indépendants locaux qui alimentent les petites zones, ou un système de grandes entreprises capitalistiques. Et en fait, techniquement et économiquement, les trois systèmes auraient pu se développer. C'est une action politique, la mobilisation de réseaux, notamment de la part de gens comme Edison, qui ont imposé les grandes firmes capitalistiques. Et une fois que les réseaux ont été les réseaux de distribution d'électricité, pas les réseaux sociaux, ont été structurés pour cette solution-là, c'était devenu de plus en plus difficile de revenir en arrière. Quoi. Et donc là, on a une situation macro et très structurelle à l'arrivée qui est née, mais comme la plupart d'entre elles, de situations incertaines, micro ou méso, disons, et qui après se cristallisent. Voilà.
Mais juste, ouais. Le versant micro de. J'ai pris l'exemple de Bénédicte Anderson, donc. La lecture des journaux comme un ciment d'une collision possible et avérée de fait, parce que ça va marcher. Le versant micro, c'est ce court passage de Tarbes dans l'opinion de la foule, il raconte l'expérience que chaque fois qu'on lit un journal, on sait que d'autres le lisent et que ça donne une position d'arrière-plan pour ouvrir des débats, pour savoir dans quel monde on vit, et tout ça. Et ça, c'est complètement micro, et c'est répété. Et donc, par rapport au crayon, c'est pas simplement que tu prends n'importe quoi, et c'est du micro, ça s'inscrit toujours dans du macro, mais des fois tu encoches des objets micro qui se sont. C'est un peu comme si. L'important, c'est pas qu'on passe de 50 000 journaux à 100 000, c'est qu'on a 100 000 lecteurs.
Oui.
Une lecture qui change du coup de configuration, parce que ça, au bout d'un moment. Tu vois, c'est tout ce
qui est. Oui, dans le cas du journal, il y a la signification qui est associée à l'objet.
Comme je disais, ressource, c'est un mot pour creuser. Quoi,
ouais, mais si tu as des idées, je
suis. Donc, il y a deux prises de parole bien fournies, dont Kacharix, il y en a une autre. Il y a Mille Amandes, peut-être on peut regrouper les trois et écouter à la fin, répondre à Michel. Voilà.
Bien. Alors, une question de compréhension un peu plus précise, parce que pas simple de rentrer complètement dans l'affaire, et notamment de penser si les acteurs s'accordent sur les classements qui sont évoqués là, et j'avais encore retapé sur routine. Mais juste avant, rituel, ça marche bien, c'est-à-dire qu'il me semble qu'on va être sûr que tous les acteurs rangeraient bien les choses de la même façon, puisque le rituel à une protocolarisation. Donc on est tous d'accord. Tiens, les routines, est-ce que finalement tous les acteurs qui vont être rangés dans une action que tu mettrais dans routine le vivent comme étant une routine? Pas sûr, peut-être que certains c'est une routine pénible et pour d'autres c'est une routine qu'ils rêveraient d'acquérir parce qu'elle les libérerait de pas mal d'inquiétudes. Voilà, je me suis demandé, est-ce que les acteurs peuvent retrouver. Est-ce qu'on s'entend sur le partage des catégories de rangement? Et puis une autre qui portait plus sur le croisement des issues de la situation et du moment de survenue de la situation, où tu disais l'élection, c'est la situation où on carrefour, quoi, où on sait que ça va arriver à telle date. On voit un certain nombre d'issues possibles. Tu prenais 2005, le référendum européen qui ne donne pas la réponse attendue. Alors, il y avait des anticipations fortes là-dessus. Mais alors, je me dis, qu'est-ce qu'on fait du 21 avril 2002 où, pas le deuxième tour. Là, l'anticipation, elle est validée, on sait à l'avance de ce qui se passera. Mais en revanche, sur le premier tour, ça reste. Ça te paraît être dans les. Tu le rangerais exactement de la même façon. Là.
Ok. Je reprends plusieurs questions. Oui, d'accord.
Oui, donc. Ma question est peut-être un peu naïve, mais si on pense que je peux proposer Samuel Bourgeois sur les conséquences.
La voix, oui.
Ouais, pardon. Peut-être une question sur les conséquences, justement, de la prévisibilité. Je me demandais simplement, en fait, de façon un peu naïve. Est-ce qu'il y a des inégalités sociales face à l'imprévisibilité?
Ah, mais bien sûr.
On pourrait par exemple s'expliquer par les rapports sociaux.
Bien sûr.
Si oui, comment se manifeste-t-elle? Et sinon, qu'est-ce qui ferait, bon, vous avez déjà répondu en partie, que la stratification sociale s'effacerait dans ce modèle? Donc, sinon, vous êtes d'accord, il y a des inégalités sociales.
Ah oui, ça, je suis d'accord.
Si vous pensez dans la quatrième case du tableau précédent, même dans des situations de bouleversement structurel, on peut imaginer le maintien, par exemple, hein, d'une bourgeoisie après un processus révolutionnaire.
Bien sûr.
Alors moi, ça va prendre dans le sens des deux remarques précédentes, des deux questions, parce que C'est aussi un point de vue un peu naïf sur la notion d'imprévisibilité. Je ne retrouve pas peut-être que la réponse y est. Mais je me disais finalement, qui fait le diagnostic de l'imprévisibilité? Qui affecte ce caractère d'imprévisibilité, d'imprévisible à un moment, à une action, à un fait, à un événement? Donc, dans ce que j'ai pu comprendre, c'est quand même l'observateur, c'est le sociologue, hein, au regard de régularité statistique, de régularité sociale, de routine observée, etc. Et justement, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas des positions, un même fait ou un moment peut être interprété comme prévisible pour certains acteurs et pas pour d'autres. Donc il y a peut-être une pluralité. Je me disais, est-ce qu'il y a une nature intrinsèque de la prévisibilité, quelle serait-elle?
Tout à fait, oui, mais votre question rejoint la première, en fait, ça tombe bien. C'est le problème, c'est qui définit ces situations d'imprévisibilité ou de routine, etc. Moi, je m'accorde la possibilité de le faire en tant qu'analyste, mais je pense qu'on peut être plus prudent aussi, on peut refuser cette position un peu peut-être objectivante, et dire, on va s'en tenir au discours des acteurs et dire qu'il y a de l'imprévisibilité à partir du moment où les acteurs eux-mêmes considèrent qu'il y en a, ou ils l'expriment, ou encore dans des cas où il y a des accords entre eux, donc dans la mesure où il y a des accords, il y a une forme d'imprévisibilité, etc. Donc là, au fond, c'est les critères, ou la posture de l'analyste, on peut avoir des postures différentes et quand même utiliser ce cadre d'analyste. C'est un peu bon. Ça dépend de la posture qu'on décide d'adopter, une posture épistémologique. C'est toujours un. Moi, je ne pense pas qu'il y ait de sociologie purement compréhensive, par exemple, purement émique. Il y a toujours une dimension analytique, quand même. Il y a toujours un choix de cadrage par l'analyste. Mais après, on peut aller plus ou moins loin dans. Ce cadrage où au contraire, enfin, donc on peut mettre le curseur à des endroits différents, et je pense que d'une part ça dépend des positions épistémologiques de l'analyste, ça dépend peut-être aussi des problématiques sociales. Il y a des problématiques où il faut mieux être très attentif à ce que disent les acteurs et pas aller trop loin dans l'interprétation parce qu'on sait que ça n'a pas marché, et des situations où au contraire on peut être un peu plus analytique, disons, voilà. mais je pense que ça n'impacte pas le. C'est un peu indépendant du reste de ce qui est affirmé. Du coup, c'est la même réponse pour les routines. Quoi. Soit on dit c'est moi qui décide que c'est une routine, soit on dit bon, les acteurs eux-mêmes considèrent que. Ça change l'analyse, on est d'accord, mais ça permet quand même d'utiliser les mêmes outils. Quoi.
Des accords entre les acteurs pour les
oui,
comme
après,
ça
dépend.
Moitié, pas le moitié,
oui, tout à fait, d'accord. Mais à ce moment-là, est-ce que l'analyste considère que le désaccord entre acteurs fait que c'est en soi une situation alors non routinière et on rentre dans le débat, etc. Ou est-ce qu'il va se prendre, il va considérer chaque groupe d'acteurs séparément. Enfin, après, chacun fait ce qu'il veut, quoi. Mais, donc, j'ai pas de recommandation. Faites ce que vous voulez. Bon, après le 21 avril 2002, bon, enfin, après c'est pareil, soit on considère que c'est une élection comme une autre, à ce moment on le met dans la case Carrefour, soit on considère que ça s'écarte des équilibres antérieurs, et à ce moment là on va changer de case. Tout dépend des hypothèses et du cadrage de la situation que l'on fait analytiquement. Donc ça c'est, les deux sont possibles, mais il faut argumenter pourquoi on le met dans une situation ou dans une autre, quoi. Et empiriquement, voilà. Sur les inégalités, bon, je l'ai pas évoqué, on peut pas parler de tout dans ce genre d'exposé, mais je pense qu'il y a, des inégalités qui sont mal étudiées et qui sont liées à la maîtrise des situations d'imprévisibilité. Il y a une collègue québécoise qui avait étudié les maternités adolescentes. Il y avait des jeunes femmes de 15-16 ans qui ont des enfants. et qui montrait très bien que pour certaines, c'était notamment dans des milieux populaires, ça pouvait induire des bifurcations, à abandonner les études, à rentrer dans des logiques de précarité, etc., etc. Alors que dans des milieux favorisés, c'était pris en charge avec les moyens que peuvent avoir des familles un peu fortunées, soit avec des personnes qu'on recrute pour s'occuper du gamin, soit par d'autres. Et donc, ce qui pour certains, plus on est démuni de ressources, plus l'imprévisibilité peut créer des irréversibilités, en particulier des irréversibilités négatives, enfin qui sont vues comme négatives par les personnes. Et plus on a des ressources, et plus au contraire on peut limiter les irréversibilités, c'est-à-dire empêcher que ça entraîne des choses en cascade, etc. Donc il y a quelque chose qui se joue au-delà des inégalités de ressources ordinaires que nous savons documenter, dans la façon dont ces inégalités de ressources se répercutent aussi dans la gestion des situations imprévisibles qui pourraient trop agir après sur les ressources, évidemment, donc amplifier les inégalités en quelque sorte. Et il y a un enjeu collectif aussi dans la maîtrise de l'imprévisibilité, c'est-à-dire, j'avais pris dans le bouquin, je prenais l'exemple de la flexibilité du travail. Le patronat veut que les travailleurs soient flexibles, mais il n'est pas content quand il y a du turnover, c'est-à-dire que quand les gens s'en vont alors que lui, il n'a pas prévu de le faire. Donc on voit bien que le problème, c'est pas tant que ce soit flexible ou pas flexible, mais c'est qui maîtrise la flexibilité en question, ou l'imprévisibilité. Il y a un enjeu là qui passe toujours, qui est pas toujours documenté par les analystes, quoi.
Yeah.